Bonsoir mes frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Un texte qui nous rappelle qu'on peut oublier les choses. Vous le savez qu'on peut oublier les choses ? Ouais. On le sait trop, hélas. Hébreux, chapitre 12, verset 5. Hébreux, chapitre 12, verset 5e. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Lui, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il y soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Vous gardez le texte, s'il vous plaît, le passage. Et nous allons lire dans l'Apocalypse le message que Jésus adresse à la dernière église, cette église qui ne sait pas la condition spirituelle dans laquelle elle se trouve. Apocalypse chapitre 3, on y reviendra. Mais on va partir de cette parole du Seigneur qui rejoint ce que nous venons de lire dans l'Épître aux Hébreux. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19, « Moi, c'est Jésus qui parle, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » C'est d'ailleurs le titre de ma prédication, « Je reprends tous ceux que j'aime. » Et donc du zèle, et repens-toi. Donc, si vous, on va y revenir sérieusement, c'est une église qui est en train de perdre la piété. C'est une église qui est en train de s'illusionner. On pourrait appeler l'évangile de l'illusion l'église de Laodicée. Donc, à la lecture de ce que nous venons de lire, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma piété augmente? Est-ce que c'est important pour vous que la piété augmente? Qu'est-ce que vous voudriez voir augmenter dans votre vie? Est-ce qu'il y a une chose, une vertu que vous aimeriez voir se développer dans votre vie? Peut-être, voilà, peut-être que votre souci, comment mieux marcher avec Dieu, comment avoir davantage de compassion pour les perdus. C'est des questions qu'on peut se poser dans une église. On a tous le souci de faire des progrès. L'église de la Odyssée, elle était en devoir de se poser de véritables questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un examen sincère de ma vie avec Dieu? On le fait le dimanche matin, normalement, lorsqu'on prend le pain et le vin. Mais comment travailler pour avoir davantage de zèle? Peut-être qu'une de nos failles, c'est l'évangélisation. L'autre, ça va être peut-être le témoignage. C'est important que chacun de nous, nous sachions où nous en sommes. Donc, Jésus a conseillé à cette église, on n'a pas lu le verset 18, mais on va le lire. Dieu donne des conseils. Dieu n'oblige jamais. C'est dans les sectes où on oblige les gens. Dans l'église du Seigneur, jamais le Seigneur n'oblige. Il conseille. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Est-ce que vous connaissez le prix de l'or? Est-ce que vous savez combien ça vaut un kilo d'or? J'ai regardé ce matin sur Internet pour savoir. 35 000 euros et des poussières. Un kilo d'or, 35 000 euros. C'est beaucoup? Oui, si vous en avez 5 ou 6 kilos, vous pouvez le partager, bien entendu. Et c'est étonnant qu'à une église qui se croit riche et qui ne l'est pas, le Seigneur lui donne ce premier conseil, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or. » Alors qu'elle est pauvre, vous comprenez bien que le fait d'acheter indique un effort. Il est hors de question d'acheter de l'or. Le texte est clair. « Acheter », c'est un verbe actif. Il faut que je fasse des efforts. C'est ça que ça veut dire. Dieu nous demande d'acheter des choses. Vous comprenez bien qu'il est hors de question d'acheter. Le Seigneur, il donne. Mais cette expression qui revient plusieurs fois dans la Bible, aux vierges folles, il leur est conseillé d'aller acheter de l'huile. Est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit? Bien sûr que non. Mais le verbe acheter est utilisé à bon escient pour le Seigneur parce qu'il y a des efforts à faire. Ce soir, il faut que nous fassions des efforts, en plus d'écouter, pour dire, mais tiens, quel est le domaine dans lequel je dois me positionner? Vous voyez, il y a 5 conseils qui sont donnés. On va les lire. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or nous parle d'intégrité, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc là, il nous est parlé de sainteté. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc là, l'importance d'y voir clair, car cette église a reçu, hélas, le reproche qu'elle était aveugle. Dès qu'on adopte un mensonge, dès qu'on adopte quelque chose de faux, on tombe dans l'aveuglement. C'est pour cela qu'il est important de dire, mais Seigneur, éclaire-moi. On se demande pourquoi telle personne a rétrogradé. À chaque réunion de prière, on prie pour les fils prodigues, et il faut le faire. Pourquoi des gens ont rétrogradé? Parce qu'ils ont adopté un mensonge, sans s'en rendre compte. Ils ont accepté quelque chose qui n'était pas biblique, et l'ennemi s'est infiltré, et Dieu a transformé cela en puissance d'égarement. Quatrième conseil, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc, du zèle. Et, repens-toi. Donc, en vérité, si nous sommes honnêtes, nous acceptons d'être repris. Vous acceptez d'être repris? Ou ça vous irrite dès que l'on vous demande de vous corriger? Est-ce que vous aimez être corrigé, ou est-ce que ça vous est insupportable? Comment? Humaine, oui, il faut reconnaître. Mais quand ça vient de Dieu, quand même, je pense que les gens qui n'acceptent pas les reproches, quand ça vient de Dieu, c'est sûr que si ça vient d'un gourou, si ça vient d'un dictateur, d'un pasteur qui fait du dirigisme, etc., on peut ne pas l'accepter. Mais quand on sait que ça vient de Dieu, on devrait se réjouir. Et c'est écrit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Donc, à cause de l'amour qu'il a pour nous, vous savez que Dieu vous aime. Eh bien, il va vous reprendre. Il va nous reprendre. C'est pour ça qu'on a lu, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Châtier, dans le grec, ça veut dire « corriger pour instruire ». Il y a une comparaison avec la façon dont un papa peut corriger ses enfants, mais ce n'est pas toujours la bonne comparaison, parce qu'un papa, il peut corriger ses enfants tout simplement parce que ses enfants, la nuit. Est-ce que ça peut arriver qu'un père dit, écoute, il m'énerve les gosses, il me fatigue, je vais les calmer? Mais c'est pour lui qu'il le fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il le fait pour lui. Et l'image est exacte, mais elle peut ne pas être forcément bonne. Tandis que Dieu, chaque fois qu'il nous corrige, c'est tout le temps pour notre bien. C'est tout le temps pour nous. Alors, il ne nous corrige pas avec un fouet, mais il sait nous éprouver. Dieu n'utilise pas un fouet pour corriger les enfants, ses enfants, mais il nous corrige. Et il sait nous corriger. Avez-vous déjà été éprouvé dans la vie? Avez-vous déjà été corrigé? Comment l'avez-vous vécu? En tous les cas, il est dit ne pas mépriser le Seigneur. Les pécheurs le font. Les pécheurs n'acceptent rien du tout. Les pécheurs ne comprennent rien d'ailleurs. À tout ce qui peut arriver sur la terre, ils ne comprennent rien du tout. Mais un chrétien, lui, il devrait avoir ce bon sens de ne jamais mépriser le châtiment du Seigneur. Quel que soit le chrétien. Est-ce qu'il y a une catégorie de chrétiens qui a besoin d'être repris ou est-ce que tous les chrétiens ont besoin d'être repris? Est-ce que les meilleurs, est-ce qu'il y a des meilleurs? Est-ce qu'il y a des chrétiens meilleurs que les autres? Hein? Ça, on en reparlera une autre fois. Ouais. Mais de toute façon, une chose est sûre, tous les enfants de Dieu, même les plus zélés, ont tous besoin d'être repris. Par contre, Dieu laisse les pécheurs dans leur voie. On le voit plusieurs fois. D'ailleurs, on revient à ce texte qu'on a lu quand même. Parce qu'on l'a lu, mais vous ne vous êtes peut-être pas arrêté sur tout. Quand on n'est pas corrigé par le Seigneur, ce n'est pas bon signe. Verset 8 du chapitre 12. Vous, par exemple, vous êtes sévère avec vos enfants. Mais est-ce que vous pourriez aller corriger les enfants du voisin? Mais non. Donc, un père, lui, il va être plus conciliant avec les enfants du voisin parce que ce n'est pas les siens. Mais avec ses propres enfants, il va se faire un devoir de les corriger. Eh bien, quand on est exempt du châtiment, ce n'est pas bon signe. Regardez Hébreux 12, verset 8, on l'a lu, ce qui vous montre l'importance de lire et de relire et de re-relire pour méditer. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, regardez le verdict, ça fait peur. Vous êtes des enfants illégitime et non des fils. Et je crois que c'est la Darby qui dit « Vous êtes des bâtards ». Vous l'avez, vous? Ça vous montre combien un enfant de Dieu peut perdre sa filiation spirituelle. Et un chrétien qui finit par s'éloigner de Dieu va finir par s'éloigner du châtiment. Alors il va se dire « Ouais, je n'ai plus de problème avec Dieu, je ne suis plus châtié par Dieu, je ne suis plus éprouvé par Dieu. Youpi, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon signe lorsque l'on n'est plus châtié par le Seigneur, lorsque l'on n'est plus éprouvé par Dieu. Il faut être sérieux. Dieu nous aime. Nous, notre priorité, c'est peut-être des choses qui ne sont pas importantes. La priorité d'un chrétien, ça peut-être le confort. Tiens donc, le confort, est-ce que c'est bien le confort? Est-ce que c'est bien le confort? Mais soyons honnêtes. Vous préférez acheter une voiture qui a 150 ans, juste 4 roues, ou une voiture moderne, climatisée, pour le même prix? Qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'attention, il y a des gens qui veulent tellement être spirituels qu'ils en perdent l'honnêteté. Soyons honnêtes, bien sûr. Franchement, soyons intelligents. Ne soyons pas hypocrites. Le confort peut être une priorité, mais ça ne devrait pas être une priorité. La priorité, ça devrait être les progrès. Par contre, on doit apprécier tous les bienfaits. C'est écrit dans la Bible que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Est-ce que c'est écrit? Bien sûr que c'est écrit. Mais nous, on n'a pas forcément les mêmes priorités. C'est pour cela qu'en étudiant la parole de Dieu, on va finir par adopter la priorité que Dieu veut. C'est pour ça qu'on répète, mais les gens ne le comprennent pas, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, nous, on est là, on veut apprendre, on veut découvrir certaines choses. Alors, est-ce qu'on se sent repris, puisque la Bible nous dit qu'on est repris? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir repris lorsque vous écoutez une prédication? Oui? Ben oui. Moi, je le vois bien à la sortie des cultes ou plusieurs jours après les réunions. Il y a des gens qui disent « Oh, ce matin, le Seigneur m'a parlé, ça m'a repris, ça, j'avais besoin, etc. » On sent qu'il y a des gens qui veulent être repris, qui aiment être repris, et il y a des gens qui ne se sentent absolument jamais repris, alors que quand même, de temps en temps, il y a quelque chose qui devrait nous interpeller, oui ou non? Quelque chose qui va être dit de la part du Seigneur pour nous permettre de nous corriger. Alors, on devrait tout apprécier, comme dit d'ailleurs Paul aux Romains, considère la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Donc on a besoin de se sentir pris, c'est rassurant. C'est l'indifférence qui devient grave. L'indifférence qui va amener cette insoumission à la parole de Dieu. En tous les cas, Dieu sait exactement ce qu'il nous faut, ce que nous avons besoin de traverser. On va lire dans le psaume 119. Dans le psaume 119, vous connaissez David ? Vous le connaissez bien, David ? Je ne sais pas si on connaît bien David. On connaît, bien sûr que c'est un des personnages bibliques qu'on connaît le mieux. Regardez ce qu'il dit. Dans le psaume 119, le psaume que je vous conseille de lire quand vous n'avez pas envie de lire la Bible, vous le lisez une fois, c'est bien. Dans le psaume 119, on va lire quelques versets. À savoir l'importance. D'ailleurs, si vous lisez le psaume 119, je l'ai lu moi tout à l'heure. J'avais fini, j'avais du temps, je me suis dit, tu vas le lire. C'est impressionnant le nombre de fois où on voit Dieu, où David demande certaines choses à Dieu. Regardez, on va lire le psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. C'est quand la dernière fois vous avez demandé à Dieu du bon sens, de l'intelligence? À moins que vous n'en ayez pas besoin, naturellement, c'est normal que vous n'en demandiez pas. Mais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez demandé à Dieu de la sagesse ? David, quand vous lisez ces psaumes, c'est impressionnant, cet homme qui connaissait Dieu, combien de fois il l'a demandé. Ce n'est pas étonnant qu'il ait écrit tout ce qu'il a pu écrire, qu'il y ait au moins 40 livres dans la Bible qui parlent de David. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Vous voyez ? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Verset 71. Il m'est bon d'être humilié. Ah, oula, vous pouvez le dire ça ? C'est facile de le lire, hein ? Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Verset 75. Regardez bien ces propos. Il faudrait le lire en entier, c'est impressionnant. Je sais, il le sait, il l'a expérimenté. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Et quand on prend le temps de lire le témoignage de David, on comprend pourquoi il a fait vraiment des progrès. Et il le dit, maintenant, j'observe ta parole. Le verset 71. Vous voyez ? Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et on le voit, maintenant, j'observe ta parole. Ouais, vous voyez, c'est le verset non, 75. Vous voyez ? Je l'ai marqué ce verset. Maintenant, j'observe ta parole, non ? Eh bien, je me suis trompé. Ah ouais, voilà, maintenant j'observe ta parole. Et David a été beaucoup humilié, il a fait des exploits, il a commis des erreurs, mais il a appris. C'est pour ça que nous devons être attentifs. Bien sûr, ce n'est pas agréable d'être châtié, ce n'est pas agréable une correction qui vient de la part du Seigneur. Alors, j'ai souvent cité, considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. Je comprends pourquoi il est dit juste après, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que pour comprendre les épreuves, il faut un minimum de sagesse. Alors on pourrait croire que ça se contredit. D'un côté, Jacques nous dit « considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves » et le verset qu'on a lu tout à l'heure, on va le relire, Hébreux 12. C'est important parce que je pense qu'un des plus gros problèmes dans les églises, c'est le manque d'équilibre. Les gens ne connaissent pas la parole, donc ils sont équilibrés, ils vont prendre une expérience et ils vont l'imposer au détriment de tout le reste. Donc Hébreux chapitre 12, verset 11, c'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu célèbres qui ont dit que certains livres n'étaient pas inspirés, tellement certaines paroles paraissent contradictoires, comme Jacques 1, verset 2, et ce texte, le verset 11 du chapitre 12. Mais ce n'est pas du tout contradictoire, c'est complémentaire. Hébreux 12, verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord, qu'est-ce que ça semble d'abord ? Un sujet de tristesse. Alors que Jacques dit, considérer les épreuves comme un sujet de joie. On pourrait dire, bon, mais ils ne sont pas d'accord. Mais, il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Qui c'est qui a pu dire, après une épreuve, c'est-à-dire un an ou deux ou trois après une épreuve, de se retourner, de dire, j'en avais besoin. À qui c'est déjà arrivé ? À qui c'est déjà arrivé ? Levez la main. On va voir les gens qui sont vraiment spirituels. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Un an, deux ans après, oh Seigneur, j'avais vraiment besoin de cette épreuve. Mais le Seigneur, il le sait. Il ne se trompe pas. Il sait exactement ce qu'il fait. Parce que comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, Dieu se préoccupe plus de notre condition spirituelle que de notre confort ou de nos priorités à nous. Il le sait. Bien sûr que quelqu'un qui n'est pas passé par une véritable repentance ne comprendra pas bien ces choses. C'est ce qui fragilise les églises aujourd'hui, c'est que lorsque les gens rentrent dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas passés par une véritable repentance. Alors vous leur parlez de certaines choses importantes, de certaines vertus, de certaines obligations, ils ne le comprennent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Et plutôt que d'essayer de les dissuader, il vaut mieux prier pour eux. Vous avez jamais vu des gens que vous pouviez leur parler, ça ne servait à rien? Mais ça ne sert à rien, parce qu'à un aveugle, ça ne sert à rien de lui parler. Est-ce que vous diriez à un aveugle, « Oh, regarde, bientôt ça va être le mois de mai, tu sais, le mois de mai, c'est le mois des fleurs, va dans les jardins publics et regarde toutes les fleurs. » Vous diriez ça à un aveugle? Ben non. Ben c'est pareil avec certains chrétiens, ça ne sert à rien. Il faut prier. Vous croyez que Dieu a le pouvoir d'éclairer les gens? C'est pour ça. C'est ça, aimer les gens aussi. Plutôt que d'essayer de les convaincre quand quelqu'un ne le fait pas, c'est que souvent, ils ne le voient pas. Dieu nous corrige pour notre intérêt. Regardez le verset 10. Pour la fin du verset 10. Dieu nous châtie pour notre bien. C'est vrai, il y a des épreuves, il sait, c'est compliqué. Bon, l'épreuve de Joseph en prison, bon, 13 ans de... C'est lourd comme épreuve? Bon, Dieu était avec lui. L'épreuve de Jonas, c'est lourd d'être dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. Moi qui ai du mal avec les odeurs. Non, mais... je ne sais pas si vous imaginez comment ça devait sentir bon. Bon, ça, vous allez me dire que ça a duré que 3 jours. Est-ce que c'est lourd comme épreuve? L'épreuve de Job, perdre tous ses enfants, perdre ses amis aussi. Vous voyez, des épreuves, Dieu les permet. Alors quelqu'un m'a dit, oui, Job, c'est le diable. Non. L'intention venait du diable, mais l'autorisation venait de Dieu. Et il faut faire attention à ces choses, pas dire n'importe quoi. Donc Dieu nous éprouve. Alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'épreuves et on ne peut pas commencer à comparer les épreuves. Toi tu as vécu ça, oui, mais moi aussi. Ah, tu as perdu un gosse, moi j'en ai perdu deux. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mes frères et sœurs. C'est pas sérieux. Dieu il sait, il nous corrige pour que nous participions à sa sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et un des soucis qui devrait nous permettre de développer une vraie piété ou d'améliorer même nos lacunes. Si je parlais du témoignage, peut-être c'est l'évangélisation, peut-être c'est le service auquel Dieu m'appelle. Tout cela, ça ne se réglera pas avec du dirigisme ou du laxisme, ça se réglera avec des convictions. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et la vérité doit pas être comme un bâton qui nous assomme, la vérité doit amener la sainteté. D'ailleurs, c'est bien écrit dans les Éphésiens. C'est un merveilleux verset qui nous indique ce que doit produire la vérité. C'est dans Éphésiens, lorsqu'il nous est demandé d'obéir, de nous dépouiller, de nous revêtir, etc. Et au verset 24 du chapitre 4, il y a une vérité qui correspond à ce que je vous enseigne ce soir. Que doit produire la vérité, voyez? Éphésiens 4, verset 24. « À revêtir l'homme nouveau », tout ça c'est une question d'obéissance, créé selon Dieu, regardez bien, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la vérité, il ne faut pas l'imposer. La vérité, il faut la vivre. D'ailleurs, c'est écrit au verset 15, en professant la vérité. La professer, pas la confesser. C'est bien de la confesser. Je vous l'avais dit l'autre jour. Un des premiers conseils que le pasteur qui m'a formé m'a donné, il m'a dit, la vérité, Gérard, ne la dis pas. Vis-la. Et c'est ça. Professer la vérité. Ce sont des choses importantes, mes frères et sœurs. Alors, on va plus loin, vous voyez, dans cette affaire. Lorsque l'on arrive, on revient à Hébreux. Lorsque on a commencé à comprendre l'importance du châtiment, d'une épreuve, que le Seigneur nous corrige, que la priorité c'est pas notre confort ou un bienfait quelconque, même si Dieu les accorde, c'est notre croissance spirituelle, regardez ce qui est dit au verset 12, c'est progressif l'encouragement, parfois c'est des paroles sévères, mais qu'est-ce qui est dit? Fortifiez vos mains languissantes. Et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. voyez les verbes qui sont utilisés. Rechercher la paix avec tous. Verset 15, veiller. Alors, souvent on entend des remarques enfantines, pour ne pas dire autre chose. Lorsque Jésus faisait des reproches à l'église de la Odyssée, il a fait des reproches à l'église de la Odyssée, vous êtes d'accord? C'est des reproches sévères? Oui. Oui, c'est des reproches sévères. Pourquoi Jésus faisait-il des reproches sévères? Pour affaiblir l'église? Ou pour fortifier les gens? Bien sûr. Mais il y a des personnes qui interprètent très mal la correction du Seigneur. Jésus ne pouvait pas faire des reproches pour affaiblir les gens. Il faisait des reproches pour que les chrétiens soient au contraire fortifiés. Et c'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, fortifiez vos mains languissantes. Dieu donne toujours ce qu'il faut pour ranimer la flamme, pour nous fortifier. Bien sûr, à condition d'accepter les conditions. Je te conseille d'acheter. Comment acheter de l'or? J'ai pas d'argent et Dieu me demande d'acheter de l'or. Alors ça paraît enfantin, mais justement, je vais m'appliquer à méditer la parole et prendre du temps de qualité devant Dieu pour être intègre, parce que l'or nous parle toujours d'intégrité. Est-ce que c'est important d'être intègre? Vous avez vu David? Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Il a accepté d'être humilié. Et lui aussi, ça a duré des années. Vous savez, quand Saül voulait le tuer, vous vous rappelez, à plusieurs reprises, il a voulu le tuer. Vous vous rendez compte, lui, il faisait tout pour servir le royaume. Et quand il a été jaloux, Saül, il a cherché à le tuer. Est-ce que ce n'était pas humiliant? Ben ouais, c'est humiliant. Il y a des choses qui nous humilient, il faut l'accepter. Pour être au bénéfice de cette fameuse sainteté. Alors, les messages, quel message, quand vous priez, au fait, tiens, je vais vous poser une question indiscrète. Est-ce que vous priez pour l'Église? Quand vous priez pour l'Église, vous priez pour quoi, au fait? Vous priez pour l'Église, par exemple, vous avez peut-être prié pour cette réunion, vous avez dit, Seigneur, oh, moi je voudrais un message de style, je suis caressé dans le sens du poil. Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? Quel genre de message vous demandez? Ou est-ce que vous ne demandez pas de message? Tiens, je vous ai jamais posé cette question, mais je la pose volontairement. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui voulaient entendre des choses qui sont chatoyantes, ou est-ce que vous, tout simplement, vous dites, Seigneur, parle-moi. Vous êtes comme ça? C'est bien. Non, mais c'est bien. Mais enfin, si vous allez sur Internet, regardez les messages, vous allez voir beaucoup de messages qui parlent du confort, de la prospérité, de la bénédiction, de la guérison parfaite, de l'abondance. Vous savez, le mouvement du royaume maintenant qui insiste énormément sur la guérison totale, que vous ne pouvez pas être malade, surtout si vous donnez beaucoup d'argent, c'est proportionnel. Alors moi, ça ne me fait pas beaucoup rire parce qu'en vérité, il y a des gens qui se font piéger et au bout de quelques mois ou de quelques années, ils abandonnent le Seigneur. Et il y a des gens qui veulent des messages chatoyants, qui leur conviennent bien, même s'il faut qu'ils se donnent. Vous savez, l'autre, en rentrant de Rouen, j'écoutais un spécialiste là de sport, du footing, et il disait qu'il avait fait une rencontre merveilleuse. Il avait rencontré une femme sur un chemin, qui allait de Barcelone à Rome, une femme de 70 ans, qui portait un sac de 40 kilos de pierres sur son dos, sac à dos, pour obtenir le pardon des péchés. Elle disait, si j'arrive à faire cette distance, Barcelone, Rome, par des petits chemins, Dieu peut-être me pardonnera mes péchés. Et il y a des gens qui croient ces choses, parce que nous, on est dans la grâce. Mais ne vous imaginez pas que tout le monde est dans la grâce, même ceux qui croient en Dieu. Cette femme, elle était complètement aveuglée. Vous vous rendez compte la déception qu'elle va avoir quand elle va revenir à Barcelone dans quelque temps? Elle n'aura pas obtenu le pardon des péchés. On n'obtient pas le pardon des péchés qu'en dehors, on n'obtient qu'avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, qu'au calvaire. Et aujourd'hui, on a besoin d'une chose, on a besoin d'entendre la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui a dû lui dire ça, de le faire à tous les coups. Et ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'entendre des messages complètement stupides et ridicules, nous avons besoin désespérément d'entendre la vérité. Quand Jérémie parle des prédicateurs de son époque, je vous en ai parlé dernièrement, on pourrait lire ce texte dans Jérémie 23. C'est important. Parce que là, ça va très loin, parce qu'on peut en arriver au jugement. Pas à l'épreuve, mais au jugement. Alors là, c'est plus de la rigolade, je vous le dis. Jérémie 23, 22. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament, si vous avez lu, Dieu envoyait des prophètes. Dieu envoyait des prophètes pour dire la vérité. Vous avez vu, vous avez lu. Et qu'est-ce que Dieu faisait quand il n'écoutait pas les prophètes? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas ce qu'il faisait? Dieu envoyait. C'est des faux prophètes qui venaient. C'est des faux prophètes. Et c'est grave parce que ce n'était pas l'annonce de la grâce, c'était la préparation à des jugements, à des condamnations. Regardez, Jérémie chapitre 23, verset 22. « S'ils avaient assisté à mon conseil, voyez, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Et le résultat, c'est qu'ils n'ont pas pu revenir. Parce qu'ils voulaient des prophètes de paix, ils voulaient qu'entendre des prophéties sur la paix, des messages chatoyants, etc. Et ils avaient besoin d'entendre la vérité. Ils ne la voulaient pas. Est-ce que nous voulons entendre la vérité? Pour nous? Pour nos enfants? Si le Seigneur tarde, est-ce que vous voulez que tous vos enfants soient sauvés? Si nous voulons que tous nos enfants soient sauvés, il faut absolument que nous entendions la vérité, parce que c'est la vérité qui, prêchée avec la repentance, amène un changement de cœur. C'est important. Fortifiez vos mains languissantes. Un chrétien, même s'il est châtié, même s'il est corrigé, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, ça doit être juxtaposé avec un effort. C'est pour ça que Dieu dit, achetez de l'or, achetez des vêtements blancs, achetez un collier, ayez du zèle, repens-toi. Et que dans les Hébreux, on voit la conclusion quand il est dit, mais fortifiez vos mains languissantes. Alors, ça vaut la peine de prendre une concordance et de voir d'autres textes. Alors, il y a un autre texte dans Ésaïe 35, regardez. Il faut voir les choses, comment les yeux peuvent s'ouvrir. Parce que ce collier pour oindre les yeux, il faut le comprendre, comment ça va se passer. Regardez Ésaïe 35. Je te conseille d'acheter un collier. Ben oui, un collier, c'est un peu virtuel pour beaucoup de gens, c'est un peu flou. Regardez quand le même texte repris dans l'Ésaïe, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend le texte d'Ésaïe 35. Regardez ce qu'il dit. Fortifiez les mains languissantes, verset 3. Il faut regarder les conséquences quand on fait quelque chose. Vous y êtes? Ésaïe 35, verset 3. « Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. » Regardez les conséquences. Verset 5. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, etc., etc. Ça va loin, puisqu'au verset 10, il est dit « Une joie éternelle couronnera leur tête ». Quand vous choisissez de vous fortifier, c'est un choix, tout est un choix. David le dit souvent « Je choisis la voie de tes commandements ». Parce que c'est bien d'entendre, oui, Dieu châtie, oui, le Seigneur corrige, tiens, il nous a donné l'explication du mot en grec, c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien. Il faut que je prenne la décision de dire, tiens, il y a des conseils, c'est que des conseils. C'est peut-être pour ça aussi que les gens ne captent pas. On dirait aux gens, justement, tu vas à Paris à pied avec un sac à dos, tu vas être guéri, les gens ils le feraient. Moi, je le crois. Vous croyez que les gens le feraient? Dites-leur de commander à maman, mais plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Mais n'importe quoi. Et heureusement qu'il y avait des gens intelligents qui ont dit, attends, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu le ferais. Là, Dieu nous demande quelque chose de simple. Fortifions-nous. En plus, après, on peut fortifier les autres. C'est un bienfait dans l'Église lorsqu'on se fait du bien mutuellement. Mais c'est là que nos yeux s'ouvrent. Bon, pourquoi Jésus dit, c'est la même chose. Achète un collier. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous obéissez, pas que vous lisez, lire ça ne sert à rien. Les pharisiens, ils sondaient les Écritures, ils ne voulaient pas venir à Jésus. On ne lit pas les Écritures pour lire les Écritures. On lit les Écritures pour dire, tiens, mais je veux me fortifier. Je vais en faire une affaire. Vous prenez une concordance et vous allez voir les textes. Fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans le Seigneur. Voilà, je vais prendre les textes. Je veux absolument me fortifier. C'est important, mes frères et sœurs, parce que la correction du Seigneur, ça peut être très théorique, ça peut être très virtuel. Il faut que ça soit du concret. Vous avez vu, il doit y avoir des conséquences. Il faut que mes yeux s'ouvrent. Si je suis dans le péché, si il y a 20 ans que je suis chrétien et que je suis toujours avare, il y a pas quand même, il y a un moment où Dieu va me montrer mon problème de l'amour de l'argent. Oui ou non? Si j'ai 20 ans de conversion et que j'ai toujours un sale caractère, il va falloir quand même que ça change. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien se convertisse et que 15 ans après, il ait toujours un sale caractère? Vous en connaissez? Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Eh bien oui. Pourquoi? Mais parce que les yeux n'ont pas été ouverts. Je peux avoir 10 ans de conversion et être toujours dans le jugement. Moi, ça a été un problème, ça. Tout le temps, enfin pas tout le temps, mais souvent en train de juger les autres. Est-ce que c'est bien, ça? De juger parce que celui ne faisait pas ci ou parce qu'il ne faisait pas ça. C'est un travers que l'on a, ça. Moi, j'ai mis des années à prendre la victoire sur le jugement. D'autant plus que c'est archi grave parce qu'on sera jugé de la manière dont on juge les autres. Alors, il vaudrait mieux arrêter de juger, à part le péché dans l'Église, qui là, ça, c'est une autre affaire. J'ai mis des années à prendre la victoire. Et ça a été une vraie délivrance le jour où j'ai arrêté. Mais c'est pour ça que je ne suis pas en train de taper sur les autres. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a un moment donné où nos yeux peuvent, où nos yeux doivent s'ouvrir. C'est le dernier conseil que Jésus adresse à la dernière des dernières églises. Je te conseille d'acheter un collyre pour oindre tes yeux. Le mot collyre, en plus, ça veut dire petit pain. Donc ça nous ramène à la parole de Dieu. Même si c'est un petit liquide pour nettoyer les yeux, ça veut dire petit pain en hébreu, en grec. Donc mes frères et sœurs, on voit bien que c'est la parole de Dieu qui continuera à ouvrir nos yeux. Et Dieu y arrivera. Si on veut avoir des victoires, Dieu y arrivera. On le voit dans Ésaïe 35, on n'a pas fait tout. Mais voyez, on le voit. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut la peine que vous notiez ces textes et que vous les méditiez. Vous voyez, quand il est dit, verset 8, « Il y aura là un chemin frayé, une route ». On voit bien que Dieu a tout préparé. Lorsque on fait certaines choses, qu'on accepte la correction, qu'on accepte le châtiment, il y a une démarche à faire qui consiste à faire un effort, puisqu'il est dit acheter, puisqu'il est dit fortifiez-vous. Mais voyez, il y aura un chemin frayé. Vous ne trouvez pas ça merveilleux qu'il y ait un chemin? Vous ne croyez pas que les gens du monde ils sont dans la brousse totale? Pour les chrétiens, il y a un chemin. Verset 10, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et ça devrait bien se terminer. Une joie éternelle couronnera leur tête. Moi, c'est un programme qui me convient, ça. Ça vous convient, ça? Une joie éternelle couronnera leur tête. Les impurs n'y passeront pas, dit le texte. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui s'imaginent que leur propre conseil suffit, qu'ils n'ont pas besoin des conseils du Seigneur. Et les membres de la Odyssée, ils s'étaient trompés parce qu'ils étaient prospères. C'est bien la prospérité, c'est bien d'être à l'aise, c'est bien d'avoir reçu de l'abondance. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est prospère que tout va bien spirituellement. Et ça, il faut faire attention. Il manquait de la véritable richesse de voir les choses comme Dieu veut que nous les voyons. Des fois, on me demande, mais c'est quoi la sagesse? Pour moi, la sagesse, une des définitions les plus claires, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. C'est ça, la sagesse. Et les chrétiens de la Odyssée, malgré leur richesse, ignoraient véritablement de voir comme Dieu devait, comme ils auraient dû voir. Et ceux qui n'acceptent pas la correction, ceux qui n'acceptent pas les conseils, passeront à côté. C'est pour ça que dans une même église, il peut y avoir des vierges sages, il peut y avoir des vierges folles, parce qu'il y a des gens qui sont complètement fous, parce qu'ils n'acceptent pas les conseils. Jésus adresse aux vierges folles ce reproche, elles sont folles. Elles sont folles? Vous ne trouvez pas que c'est un... Franchement, ce n'est pas un peu sévère? Bien sûr, c'est Jésus, alors on ne va pas dire oui. Mais ça ne serait pas Jésus qui parle. On ne pourrait pas dire, vous ne trouvez pas que c'est sévère? Elles ont juste oublié un peu d'huile? Moi, j'aurais dit, elles sont négligentes. Elles étaient négligentes ou elles étaient folles? Moi, j'aurais écrit qu'elles étaient négligentes. C'est quoi le plus important? On est fou. On est complètement fou quand on ne fait pas ce que Dieu demande. Et si Dieu nous demande d'avoir de l'huile, il vaudrait mieux en avoir le maximum. Bien sûr que Jésus aurait pu dire qu'elles ont négligé. Non, Jésus a dit qu'elles étaient folles. Donc, c'est de la folie quand on n'écoute pas les conseils, quand on ne prend pas au sérieux ce qu'on entend ce soir. Oui, j'ai des progrès à faire. Moi, je ne suis pas comme le chrétien peut-être de la Odyssée, mais il n'empêche que je parlais de caractère, je parlais d'avarice, mais je parle peut-être de zèle dans l'évangélisation, parce que des fois, la repentance, ça ne suffit même pas. Puisqu'il est dit, et donc du zèle, et repens-toi. C'est, ça va loin, là. Parce qu'on a l'impression, enfin l'impression, excusez-moi, c'est une façon de m'expliquer. On a la pensée qu'il faut, en plus de la repentance, retrouver vraiment du zèle. Et dire, Seigneur, je veux du zèle. Je ne veux pas être vomi de ta bouche. Je ne veux pas être tiède. Je veux corriger l'aspect qui doit être corrigé. Dans ta vie, ça va être un point. Dans la mienne, il va y avoir encore un point qui doit être modifié. Puisque je vous disais que même les chrétiens les plus zélés ont besoin d'être continuellement repris. Et qui que vous soyez, quels que soient les progrès que vous ayez pu faire, vous pouvez encore en faire d'autres. Et dire, Seigneur, il y a un domaine dans lequel je peux avancer. Ce n'est pas parce qu'on a été délivré de ci et délivré de ça. Il y a des gens, ils ont fait 4 ou 5 expériences, ils ont l'impression d'être des chrétiens parfaits. Mais quand le Seigneur commence à nous éclairer, on se rend compte qu'il y a encore du boulot. Oui ou non? Et soyons honnêtes. Seigneur, montre-moi-le, éclaire-moi. Montre-moi-le, parce que quand c'est Dieu, quand ça vient de Dieu, vous savez, les convictions de péché, c'est pas, ça ne vous assomme pas, une conviction de péché. Une conviction de péché, c'est une bénédiction. Et moi, je le vois comme ça. Si on n'avait pas été convaincu de péché, on ne serait pas là ce soir. Donc, je peux vous dire que chaque conviction qui vient de Dieu est une bénédiction. Donc, ce que dit Dieu dans Ésaïe 35, c'est la même chose que ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 12. Vous pouvez reméditer ces deux textes et vous verrez que les Hébreux, ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé d'écouter celui qui parlait. On l'a lu. Gardez-vous de refuser d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Ils sont passés à côté et ils sont morts dans le désert. C'est pas pour ça qu'ils ont été en enfer, mais ils sont passés à côté de toute la véritable grâce de Dieu. Donc, pour terminer, c'est un Dieu d'amour. Quand vous lisez Romains chapitre 12, Hébreux chapitre 12, même si ça parle de châtiment, Dieu châtie l'homme, Dieu reprend celui qu'il aime, etc. Et vous avez vu comment on a terminé le chapitre? Vous rappelez, n'ouvrez pas la Bible. Vous rappelez le dernier verset qu'on a lu? Oui. Madame, vous avez lu. Vous avez relu. On le relit le verset? Madame Guilabert, voilà, je ne trouvais pas le nom. Mais on peut, c'est bien, Hébreux 12, verset 29. Regardez par quoi le texte termine. On voit que l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, etc. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, ça c'est pas la peine de le dire. Tout le monde le sait. Mais regardez. Dieu est un Dieu d'amour, mais l'auteur rappelle quand même, ou enseigne, ou réenseigne, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce qui nous enseigne qu'il doit y avoir cette bénédiction, cette bienveillance. Moi, je me suis régalé de chanter ta bienveillance. Et c'est vrai que c'est un beau cantique. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu qui sanctifie, quand l'Église va être ébranlée, puisqu'il est dit qu'une fois encore Dieu ébranlera non seulement la terre, mais le ciel, ça veut dire que tout sera ébranlé, et le monde, et le royaume des cieux. Dieu, de temps en temps, ébranle les situations, il le permet, ne nous affolons pas. Et il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Vous vous rappelez Belshazzar qui a pris les choses de Dieu à la légère? Vous vous rappelez comment ça s'est terminé pour monsieur? Comment ça s'est terminé pour Belshazzar? Vous savez, monsieur, il a pris les choses de Dieu à la légère. Et en plein repas, il y a la main du Seigneur qui a écrit qu'il avait été pesé dans la balance et qu'il avait été trouvé léger. Et les choses de Dieu, il ne faut pas les prendre à la légère. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, Dieu est un Dieu, est un feu dévorant, car sans la sainteté, nous ne ferons pas de progrès. Et nous voulons faire des progrès. Oui, Dieu nous aime. D'une intelligence même qu'on ne peut pas saisir. Cet après-midi, dans la voiture, je réfléchissais à ce verset quand il est dit de connaître l'amour, les dimensions de l'amour de Dieu qui surpassent toute connaissance. On ne pourra jamais connaître l'amour de Dieu tant qu'on est sur la terre à fond. C'est impossible, impossible. Mais l'amour de Dieu, si grand soit-il, ne diminuera jamais en rien sa sainteté. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est ça le problème des églises aujourd'hui. C'est qu'au nom de l'amour de Dieu, au nom de la bonté de Dieu, on diminue la sainteté du Seigneur. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu saint. Donc, terminons en lisant le verset 28. Parce que c'est comme ça qu'on mettra en pratique ce qu'on a entendu ce soir. Hébreux chapitre 12, verset 28. Voilà, comment faire? Recevant un royaume inébranlable, eh bien, montrons notre reconnaissance, parce que ça aussi c'est important de dire merci. Vous dites merci, vous savez dire merci au Seigneur, mais aux gens aussi. Est-ce que vous le, je sais que vous le faites. Vous le faites. Est-ce que vous dites merci à quelqu'un qui vous dit, tiens, j'ai prié pour toi. Ah, merci. Moi, vous me le dites souvent. Et est-ce que je vous dis merci? Ouais. Montrons notre reconnaissance à Dieu en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alors, c'est quoi rendre à Dieu un culte? C'est le dimanche matin de 9h30 à 11h30? Ça, c'est la superstition. C'est tout le temps un culte. Nous, on appelle donc la réunion du dimanche matin, on l'appelle le culte. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien de donner un nom à une réunion, il faut bien. Comme on peut donner la réunion d'évangélisation, ou la réunion de prière, ou la réunion d'édification. Mais le culte, dans la Bible, ce n'est pas une réunion. Le culte, c'est une vie qui est entièrement consacrée à Dieu. Alors, béni soit Dieu pour nos cultes, bien entendu, et pour nos réunions, pour les réunions d'études bibliques, comme ce soir. Mais mes frères et sœurs, montrons notre reconnaissance. Peut-être que vous avez du mal à faire des efforts, à acheter cet or, car ça indique quand même un prix à payer. C'est évident, ça indique des efforts. Mais commençons peut-être avec des petits efforts, en disant merci. Vous comprenez? Si vous méditez ces trois textes qu'on a lus, d'Ésaïe 35, Hébreux 12 et Apocalypse, vous voyez tous ces conseils, vous voyez toute cette gradation dans le progrès, et vous en arriverez à ce stade, c'est inévident, les yeux s'ouvriront, les oreilles s'ouvriront, et je ferai des progrès. Et nous nous encouragerons les uns les autres à être des sources de bénédiction. Voilà, Dieu est plein d'amour, mais Dieu est aussi plein de sainteté. Et nous voulons d'un Dieu saint et plein d'affection. Amen. On va fermer les yeux un instant. Je vous encourage à méditer ces textes. Regardez ce que Dieu demande, ce qu'il fait, les conséquences, les conseils. C'est ça la méditation. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup qui prenaient des notes. C'est bien. C'est bien. De reprendre ces trois textes, au moins ces trois textes. On va prier quelques instants. Notre Père, jamais nous ne te remercierons assez pour tout ce que tu as fait au calvaire. Jamais. Et si cette joie éternelle couronne nos têtes, nous savons bien que nous l'utiliserons, cette joie, pour te remercier pour l'éternité, dans l'éternité. Mais si nous te remercions pour le calvaire, nous ne pouvons pas ne pas te remercier pour ta parole, Seigneur. Parce que s'il n'y avait pas ta parole, malgré le calvaire, nous aurions été vraiment en difficulté. Alors Seigneur, merci pour tous les conseils que tu adresses à tes enfants. Donne-nous la joie, Seigneur, de les mettre en pratique, afin que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que nous marchions dans cette voie sainte, dans ce chemin frayé, jusqu'à cette joie éternelle. Oui, Seigneur, nous savons que tout ce que tu as dit est intelligent, tout ce que tu as dit est utile, toutes tes bénédictions et toutes tes corrections n'ont qu'un but, que nous participions à ta sainteté. Alors c'est ce que nous ferons, Seigneur, avec ta grâce. Et nous te remercions de ton aide. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.